de Paul Bourget, La Pia. Voyager en Italie et ne pas connaître quelqu'une de ces journées de parfaite beauté, où il semble que toutes les circonstances se réunissent pour porter l'âme à son plus haut degré d'émotion heureuse, la saison qu'il est, le temps qu'il fait, la lumière du ciel, le coloris du paysage, la rencontre d'un chef-d'œuvre inconnu, la grâce pittoresque des gens. Ailleurs, en Égypte, en Algérie, en Andalousie, vous trouverez un air aussi tiède, aussi transparent, d'aussi lumineux après-midi. En Syrie, au Maroc, des horizons plus grandioses. En Espagne, en Grèce, des tableaux, des sculptures, des architectures d'une égale splendeur. En Provence, en Irlande, des hommes du peuple aussi humoristiquement familiers. En Italie seulement, vous goûterez l'accord total de ces impressions. Et cela donne à certaines heures, dans cette contrée, un inoubliable, un incomparable enchantement. Que j'en ai savouré de ces heures durant mes 20 séjours au-delà des Alpes, loin, bien loin de Paris et de ses pauvretés intellectuelles. Loin du monde littéraire et de ses cruautés gratuites. Loin, bien loin de tout, et près de l'idéal. Près des morts qui nous ont légué dans leur art le meilleur d'eux-mêmes. Près de l'âme de notre race, puisque c'est ici le point d'origine de l'esprit latin. Du commun génie que nous renions en vain dans des rivalités fratricides. En Toscane, autour de Pise, de Florence, de Sienne, il est des coins dont le seul nom, gravé sur une carte, fait battre mon cœur. De Sienne, surtout. Belle a ordonné que l'on mît sur son tombeau « Milanese ». Je suis parfois tentée de demander que l'on écrive sur celui où je reposerai « Senese ». Et ce ne serait pas trahir mon vrai pays. Tant d'histoires françaises, et de la plus héroïque, demeurent mêlées aux pierres de cette ville où commanda Montluc et qui, seul, nous resta fidèle durant ce terrible XVIe siècle, si indulgent aux trahisons. Étranger, est-il écrit sur une de ses portes. Sienne t'ouvre son cœur. Je n'ai jamais lu cette inscription sans m'attendrir. C'est le détail des souvenirs rattachés à deux de mes séjours dans cette chère ville que je voudrais fixer aujourd'hui. Le premier remonte au printemps de 1885, et je le retrouve en moi, quand j'y songe, comme un de ces rayonnements de beauté dont je parlais tout à l'heure. Ce matin-là, un des derniers du mois de mars, j'étais partie sur la foi d'un livre anglais pour visiter un couvent de franciscains. Perdu dans la montagne au-dessus de Volterra. Je devais y voir toute une série de scènes de la Passion, représentées en terre cuite coloriée, l'œuvre la plus considérable de ce mystérieux sculpteur aveugle Giovanni Gonelli, dit « Il Cieco di Gambassi ». L'excursion, assez longue et compliquée, m'avait été fortement déconseillée par mon guide habituel, à travers la province, un vieil artiste dont j'avais fait la connaissance au petit musée municipal de Sienne. Il y était attaché, je ne sais trop en quelle qualité, et il passait ses journées depuis 20 ans dans une des salles du premier étage, à mastiquer de cire les éraillures des panneaux peints à tempera par tous les Bartolo di Maestro Freddi, les Taddeo di Bartolo, les Domenico di Bartolo, les Matteo di Giovanni di Bartolo, les Benvenuto di Giovanni, les Girolamo di Benvenuto. Je me perds aujourd'hui parmi les noms de ces vieux maîtres. Le cavalier Amilcar et Martini m'avaient pourtant appris à les distinguer. Lui, dont la vie entière s'était employée à réparer leur madone avec des délicatesses de dentiste qui horrifient les deux dents de devant d'une princesse royale. C'était un homme de mine chétive qui portait de longs cheveux soyeux et grisonnants, une barbiche blanche, et ses yeux, d'un brun pâle, luisaient dans un maigre visage tout passé, tout effacé. À force de vivre devant les fresques éteintes et les triptyques dégradés du XIVe siècle, sa personne physique semblait s'être harmonisée à ses décolorations. Il les aimait si passionnément, ces peintures de son pays. Il veillait sur leur œuvre survivante avec une si religieuse patience. Et tout ce qui n'était pas eux lui paraissait si barbare. « Et qu'irez-vous faire à San Sebastiano ?» m'avait-il dit. C'était le nom du couvent. Il n'y avait là qu'une bonne chose, un supplice du saint par Giovanni di Paolo. Les moines l'ont vendu à un Anglais à l'époque de la suppression. Et le guirlandajo qui reste, et les terres cuites ? Guirlandajo ? M'avait-il répondu avec mépris en laissant errer son regard sur les fonds en or des tableaux de son musée. Peu, c'est un brave artiste, mais déjà de bien basse époque. Quant aux terres cuites, elles sont du XVIIe siècle. Et puis, avait-il ajouté, vous n'arriverez jamais à San Sebastiano en un jour. En allant avec le train jusqu'à Castelfiorentino, cependant, je suis là vers les 10 heures. Comptez, 3 heures de voiture pour aller, autant pour revenir, 2 heures dans l'intervalle pour laisser reposer les chevaux, déjeuner, voir le couvent, et je suis à temps pour le dernier train qui me ramène à Sienne vers 9 heures. Il faudrait pour cela que le chemin de fer partît et arrivât à l'heure, avait répondu philosophiquement l'adorateur des primitifs en hochant sa vieille tête. Et vous savez bien qu'ici il y a toujours du retard. Le retard en tout, hélas, c'est le destin italien aujourd'hui. Je l'entends encore, après tant d'années, prononcer avec un soupir et un sourire cette formule, où il y avait de l'ironie et de la conviction, de l'orgueil et du désenchantement. Il destino italiano. Je devais en avoir un commentaire trop indiscutable dès le lendemain matin. Car, m'étant obstiné, malgré l'absence du panneau de Giovanni et di Paolo, à entreprendre mon voyage, un embarras de la petite ligne locale me fit arriver à Castel avec 2 heures de retard. Et le premier cocher que je consultais, aussitôt descendu de wagon, répondit à ma demande. Pour aller à San Sebastiano de Montagione, il faut 3 heures et demie en marchant bien. Autant pour revenir, et 1 heure de repos là-bas. Cela fait 9 heures. Encore faudra-t-il que j'attelle le Moro, car la jument est bonne, mais elle est vieille, et il faut l'aménager. Chi non ha amore alle bestie, non la neanche ai cristiani. L'aimable Toscan avait dit cet aimable proverbe en caressant du fouet la pauvre rosse blanche attelée à sa voiture, une de ces carrioles à 2 roues que les gens du pays dénomment des baroccini. Les brancards attachés très haut pointent à la hauteur des oreilles de la bête. Les 2 personnes que peut tenir l'unique banquette sont rejetées en arrière à chaque coup de collier. Elles doivent, pour maintenir leur équilibre, assurer leurs pieds sur le treillis en grosse corde qui sert de fond à la voiture et de filet pour les paquets. C'est tout de même un admirable outil à rouler vite que cette dure charrette, si légère, si gaie. Elle brave fondrière et cailloutis, montée et pente. Et puis, lorsqu'un cocher est plaisant comme celui-là et qu'il parle le joli italien, mâle et musical de cette province, quelle fête d'aller ainsi parmi les oliviers, les mûriers, les vignes et les chênes verts. Le geste de l'homme flattant sa jument avait été si avenant. Dans son costume de drap jaune à carreaux noirs, il avait une si alerte tournure. Son brun visage exprimait tant d'intelligence qu'obligé de renoncer à mon expédition, je fis à mauvais jeu bonne mine. Les Toscans ont encore un proverbe pour cette sagesse-là. D'ailleurs, pour quelles circonstances n'en ont-ils point ? Qui non puber nel oro, beva nel vetro. Que celui qui ne peut boire dans